Vous êtes sur RTL. Pascal Praud sur RTL.
Et je vous rappelle donc que Frédéric Vidal, qui est ministre de l'Enseignement supérieur, avait déclaré dimanche que l'islamo-gauchisme gangrénait la société dans son ensemble et elle avait évoqué un problème dans les universités. Elle a annoncé qu'elle allait demander au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, de faire une enquête sur l'ensemble des courants de recherche sur ces sujets dans l'université, de manière à ce qu'on puisse distinguer ce qui relève de la recherche académique et de ce qui relève du militantisme. Il y a eu beaucoup de réactions, notamment de la France insoumise. Nous sommes donc avec Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour Pascal.
Rebonjour.
Oui, rebonjour.
Alors, c'est important de dire que vous êtes prof d'histoire à Saint-Denis, collège, lycée?
Alors, je ne suis pas à Saint-Denis, mais en Seine-et-Marne, une ville qui s'appelle Vers-Saint-Denis. Voilà, et je suis en lycée et je fréquente un peu l'université parce que j'ai la chance de pouvoir faire de la formation continue à l'université auprès d'adultes. Donc, je côtoie aussi quelques collègues à l'université, si vous voulez.
Bon, comment ça se manifeste ? C'est les élèves ou c'est les profs ?
Alors, écoutez, moi je vais vous dire, je vais parler plus de ce qui s'est passé dans le secondaire, dans le lycée où je suis, au moment des hommages divers qui ont été prévus par rapport à l'odieux assassinat de Samuel Paty. J'ai une collègue qui très très ouvertement, prof de philo, très ouvertement a revendiqué son islamo-gauchisme devant l'Assemblée, disant même qu'elle allait jusqu'à écrire contre Charlie, etc. Et ce qui m'a assez stupéfait, mais j'en faisais aussi partie, c'est que personne, strictement personne n'a réagi. Et je crois que on est au cœur du problème, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a sans doute une minorité de personnes qu'on appelle donc communément des islamo-gauchistes, qui sont extrêmement militants, extrêmement actifs et qui diffusent de façon extrêmement importante leurs idées.
C'est le principe des minorités actives.
Et ouais. Et en face, si vous voulez,
très déterminée, très militante et ouais. Assez peu de ouais. Monde, mais c'est comme ça qu'on prend le pouvoir, hein.
Exactement.
C'est toujours des minorités qui prennent le pouvoir.
Oui. Lénine a très bien théorisé tout ça, il l'a très bien mis en valeur. Mais là, si vous voulez, ce qui m'a impacté, et moi, mais j'étais même dans la situation de ceux qui ont été choqués de l'entendre parler comme ça. On est plusieurs à s'être regardés, et on n'a rien dit.
Mais alors cette prise de parole, c'était dans quel cadre ?
Eh ben, c'était dans le cadre d'une discussion pour savoir exactement qu'est-ce que l'on devait faire pour faire justement ce témoignage à Samuel Paty, comment faire ressortir les valeurs de la République, etc. etc.
Bon, et il y avait qui dans cette prise de parole, dans cette réunion ?
60% des enseignants du lycée, à peu près.
D'accord, 60% des... Donc il n'y avait que des enseignants.
Il n'y avait que des enseignants.
Bon, ouais, il y avait des responsables de la hiérarchie du lycée ?
Non, ils ne se joignent pas aux réunions avec les enseignants. Bon. Donc,
en même temps, c'est la liberté d'expression. Elle a le droit, d'une certaine manière. Elle a le droit. Bon.
Mais par exemple, sur 60... Ce qui aurait été intéressant, c'est un débat contradictoire, si vous voulez, avec les gens, et personne n'a réagi. Et c'est ce qui se passe un peu dans l'université aussi, où les gens qui ne sont pas forcément d'accord ne vont pas forcément réagir aussi.
Mais quel est le profil, par exemple, de cette dame ? C'est un témoignage anonyme que vous livrez là.
Tout à fait.
Crois volontiers. On ne peut évidemment pas le vérifier. Mais quel est le profil de cette personne, prof de philo ?
Extrêmement intellectuelle, extrêmement intelligente, qui s'arrête sur des et qui détermine sa position par rapport à des principes et à des valeurs qui sont les siennes, à savoir que la justification essentielle, c'est qu'on n'a pas le droit de froisser, on n'a pas le droit de
blesser, voilà, non mais c'est une tendance,
blesser,
hein, effectivement.
Voilà. Et c'est quelque chose qui est en train de s'insinuer, de s'immiscer dans le monde universitaire, scolaire, qui débouche donc sur l'autocensure de plus en plus importante d'un certain nombre de collègues qui, de peur de faire des vagues, de peur de provoquer des réactions, préfèrent ne pas parler de certaines choses, ne pas faire certaines choses pour ne pas s'exposer comme cela.
Vous étiez combien dans cette réunion ?
Je crois que j'avais fait un décompte, on devait être une trentaine.
Bon,
on
est et cette dame, elle était toute seule ou à dire ça ? C'est une personne sur 30 ou il y avait d'autres personnes qui pensaient comme elle ?
C'est la seule qui l'a dit ouvertement, mais je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de personnes qui pensaient comme elle aussi.
Bon, et elle donc, elle continue d'enseigner à cette personne ?
Oui, puis elle fait des recherches, je sais qu'elle fait des recherches.
Alors, la difficulté, c'est qu'elle a évidemment le droit de le penser. Et alors, la difficulté après, c'est est-ce que cette pensée-là se traduit dans son enseignement ? C'est ça qui est plus compliqué.
Alors ça, moi, je ne peux pas vous le dire, bien sûr. Mais il faut voir que les enseignants ont un pouvoir quand même extraordinairement important sur sur les idées qu'ils peuvent faire passer. Moi, je fais de l'histoire et je vois déjà avec l'histoire le pouvoir qu'on a dans la façon avec laquelle on présente les faits, on présente les événements, etc. Si on n'est pas si on n'a pas un peu de déontologie, on peut tout de suite arriver à faire de la propagande pour ces idées, quoi.
Alors,
je dis pas que c'est fait, hein, mais c'est quelque chose qui est tout à fait dans la mesure du possible.
Bon, vous êtes prof d'histoire, c'est donc lycée, c'est seconde, première, terminale.
Exact.
Bon, en ce moment, vous êtes en vacances ?
Exactement aussi, oui.
Bon, et vous étudiez quoi avec les secondes, premières et terminales ?
Eh bien, justement, avec les terminales, vous savez qu'il y a maintenant des spécialités. Dans la spécialité d'histoire géopolitique en terminale, on travaille en ce moment sur la connaissance, la transmission de la connaissance, bon. La connaissance et la production de la connaissance.
Moi, je suis surpris de ces jeunes gens que je vois arriver dans la vie professionnelle, parfois formés, hein, puisque ils ont envie d'être journalistes, souvent, ils le sont même parfois. Je suis surpris que leur connaissance historique, me semble-t-il, ont pour le moins baissé par rapport à ce qui était le cas il y a 20 ou 30 ans. Mais enfin, j'ai l'impression que l'histoire...
Alors, non, mais vous avez raison, Pascal, mais pour une raison simple, c'est que les programmes qui ont été faits au cours des 10 dernières années étaient des programmes extrêmement pointus, extrêmement intellectuels, extrêmement pointilleux, qui ne mettaient pas du tout l'accent sur ce qui me semble être l'essentiel que quelqu'un, que le commun des mortels doit savoir sur l'histoire, si vous voulez. On travaillait sur des trucs genre... communisme et socialisme en Allemagne de la fin du 19e à aujourd'hui, vous voyez. Et rien sur l'histoire de France, rien sur des choses comme ça. Voilà.
Eh bien, merci Pierre. Merci beaucoup.
Merci Pascal.
Greg Caranoni, vous aimiez l'histoire. Bonjour.
Bonjour
Greg,
à tous.
Réalisateur de l'émission. Est-ce que vous aimiez l'histoire ? Est-ce que vous êtes bon en histoire ?
Non, pas du tout. C'est honnêtement, je ne suis pas bon. Oui, je dois le reconnaître.
Par exemple, par rapport à la Renaissance, de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas placer tous les rois, les gouvernements, les présidents. Vous n'avez pas une vue globale des 600 dernières années en France ?
Non. Non, je pense que j'ai de vraies lacunes là-dessus. Oui.
Bon, bah écoutez,
j'ai au moins la qualité d'être honnête.
Bien sûr. Avant, parfois, on est un peu perdu dans le Moyen-Âge, mais disons qu'à partir de la Renaissance, on peut avoir des repères quand même, disons-le.
Bien sûr, mais je ne maîtrise pas le sujet, disons.
L'autre jour, on avait parlé des rois maudits, vous vous souvenez ?
Maudits !
13h08, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pézo.
Salut Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour. La ministre dans l'enseignement supérieur a-t-elle raison de demander une enquête au CNRS sur l'islamo-gauchisme à l'université ? Avez-vous été choqué par cette demande ? Y a-t-il pour vous d'autres priorités ? Frédéric Vidal s'est exprimé mardi à l'Assemblée nationale.
Et oui, je vais demander effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays, que ce soit les recherches sur... le post-colonialisme.
Une demande qui exaspère au sein même de l'exécutif. Olivier Bost en a parlé dans son édito ce matin.
Elle est nulle. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, mais un très proche du chef de l'État. Le jugement est violent et il est à l'image de l'exaspération accumulée ces dernières semaines.
Et ce n'est pas cette polémique qui améliorera ses relations.
Cela a valu à la ministre de l'Enseignement supérieur un recadrage par les présidents d'université, par le CNRS et par le président de la République en personne, qui par la voix du porte-parole du gouvernement a rappelé son attachement absolu à l'indépendance des enseignants-chercheurs.
Vous travaillez à l'université, vous êtes chercheur, comment réagissez-vous à cette demande d'enquête ? Quelle est la réalité sur le terrain ? Eh bien, ce n'est pas étonnant que la ministre soit lâchée, écrit Mibes sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole, elle parle d'un sujet qui fâche, les bien-pensants nient la réalité. Frédéric Vidal fait du bruit pour rien, dénonce encore Serge, il y a d'autres priorités pour l'université, les étudiants. Pour Marie, la ministre a vraiment le sens du timing, lancer cette polémique en pleine crise sanitaire, chapeau l'artiste. Et pour Christophe, là, il n'y a pas de doute.
À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette.
Alors, qu'en pensez-vous ? Nous attendons vos appels dès maintenant au standard.
Je ne sais pas si elle est nulle, comme le dit l'entourage du président de la République, mais ce qui m'importe, c'est est-ce que c'est une réalité ou pas ? Est-ce que l'islamo-gauchisme gangrène les universités ou pas ? C'est la seule question qui doit nous intéresser. Donc nous sommes avec Mathéo qui est étudiant. Bonjour,
bonjour
Mathéo.
Pascal.
Alors vous êtes étudiant à l'université de Caen, dans quelle section ?
Dans l'UFR de droit, droit ES.
Bon, est-ce que vous diriez que dans votre université, l'islamo-gauchisme est présent ?
Alors, de un, oui, mais il n'est pas présent qu'à l'université. C'est-à-dire, lorsque Frédéric Vidal demande cette enquête-là, je la trouve logique dans la mesure où l'islamo-gauchisme est, à mon sens, partout. Est-ce qu'on dira qu'elle gangrène ? Je ne sais pas. En tout cas, elle se propage absolument partout. Et par effet de conséquence, elle va à l'université. Il ne faut pas oublier que l'université, c'est le port d'arrivée, le port d'entrée de toutes les idéologies qui arrivent clé en main de la part des États-Unis et de lesquelles on se prend toutes les théories racialistes, indigénistes. Vous savez, c'est le même mouvement qui fait Black Lives Matter, c'est le même mouvement qui fait MeToo, c'est le même mouvement qui crée un nouveau système juridique, celui des médias et de l'opinion. Et donc automatiquement, oui, ça découle dans l'université. Et à l'université de Caen, ça ne manque pas.
Est-ce que c'est une proportion importante ? Est-ce que c'est au contraire une minorité active ? Et est-ce que on est soumis à cette minorité active sous peine de représailles ? Disons-le. Ça, on parlera de l'écriture inclusive tout à l'heure. C'est un peu, c'est les mêmes processus.
Oui, alors moi, ma réponse, elle est présente, et est-ce qu'on risque des représailles ? Oui, oui et oui. Deux exemples, Pascal. L'année dernière, il y a 2 ans, et pour moi, cours de droit administratif, une centaine d'étudiants et non-étudiants, d'ailleurs, il y avait des racailles qui venaient des abords de camp, dont ils n'ont jamais mis un pied à l'université, qui ont venu arrêter un cours de droit administratif de la part d'une professeure d'université, qui ont pris l'amphithéâtre, qui l'ont saccagé pendant 3 jours de suite. Je pense à mon doyen de fac à ce moment-là qui m'a montré les photos qui n'ont pas fuité dans la presse d'un amphi qui était absolument ravagé. Tout ça pour les mêmes revendications.
Et c'était quoi les revendications ?
Mais les revendications, Pascal, mais on ne sait pas quelles sont les revendications. C'était quoi ? C'était contre la sélection à l'université cette fois-ci. Ou je ne sais pas, c'était peut-être c'était une question de bourse qui allait changer sur un détail, sur une virgule dans une loi qui ne leur plaisait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils scandaient, qu'ils arrêtaient les cours et qu'effectivement, lorsqu'on a essayé de se lever pour s'opposer, c'était de l'intimidation physique. Et Pascal, je vais vous juste donner un deuxième exemple et qui est pour moi, mais stalinien dans ses méthodes. Il y a plusieurs années de cela, l'université était complètement bloquée. Et avec un ami, on a décidé d'aller à leur rencontre pour leur parler, leur demander pourquoi il y avait un amphithéâtre qui était bloqué. Par chance, on a réussi à s'introduire dans l'amphithéâtre bloqué. Lorsqu'ils nous ont encerclés, on était deux, Pascal. Ils se sont mis à 30 contre nous. Ils voulaient nous tabasser. Les services de sécurité de l'université ont été obligés d'intervenir. À 2 contre 30, ces gens-là n'ont ni foi ni loi. Ils interviennent auprès d'une idéologie qu'ils ont clé en main et qu'ils sont incapables de défendre. Elle est plus que présente, plus que présente. Et Dieu sait que pourtant l'université de Caen n'est pas considérée comme l'université la plus militante. Je pense à Rennes 2, je pense à Lyon, qui sont encore bien pires que nous.
Vous pourrez lire une enquête dans le Figaro, comment l'islamo-gauchisme gangrène les universités sur les bancs de la fac, dans la recherche des sciences humaines. Un certain discours propage des concepts militants. Et il y a le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Céline Masson, qui est psychanalyste, enseignante, chercheuse à l'université de Lille, qui est régulièrement taxée de réac et de raciste. Elle préside le réseau de recherche sur le racisme et l'antisémitisme, créé en 2009. Et elle écrit ceci: à l'université, différents courants dits progressistes peuvent agréger à eux des pro-islamistes de gauche qui vont puiser là matière à détester l'Occident. Elles étudient l'héritage du colonialisme, ce qui en soi est respectable, à condition de ne pas en faire une obsession contre l'Occident, supposé raciste et impérialiste. C'est la radicalité des discours qui m'interpelle, la manière de présenter et de dévoyer des penseurs comme Franz Fanon ou Aimé Césaire. Donc ça, c'est Céline Masson, enseignante, chercheuse à l'Université de Lille, qui écrit cela. Merci Mathéo pour ce témoignage. Mais Léo, qui est étudiant, qui a 25 ans et qui habite Paris, voulait intervenir. Bonjour Léo.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là, si j'ose dire ?
Non, pas du tout. Moi, ce qui m'interroge un peu, c'est que quand la ministre se fait retoquer par le CNRS, par la conférence des présidents d'université, qu'on ne pourra pas pour le coup taxer de gauchisme, sur le plateau, vous invitez beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'ils parlent beaucoup du concept d'islamo-gauchisme, mais c'est jamais le définir. Et je pense que ça serait important de commencer par là, peut-être, parce que...
Mathéo va vous le définir, il va le dire. Mathéo, c'est quoi l'islamo-gauchisme, selon vous ?
L'islamo-gauchisme, c'est la connivence des idéologies qui viennent d'extrême-gauche et qui se sont confondues entre l'acceptation de toutes les formes de métissage, mais moi, il n'y a aucun souci pour ça, mais qui s'est transformée en racialisation et dans la haine du mal blanc. Donc, automatiquement, on a fait peser sur le mal blanc tous les maux de l'Occident, le féminisme, le racisme, tous les anti-existants. Et ils se sont retrouvés, d'ailleurs, dans un vide intellectuel où ils se sont rendus compte que comment le métissage avec l'acceptation de l'islam en France, eh bien, s'est retrouvé un peu à l'encontre également de ceux auxquels ils se retrouvaient des idées auxquelles ils se retrouvaient à côté lors des manifestations qui est le féminisme. Et donc, il y a du féminisme, il y a de la volonté de faire progresser l'islamisme bien en France et surtout la mise à mort de l'Occident. C'est ça l'islamo-gauchisme.
Léo vous répond. Léo ?
Oui, vous m'entendez ?
Oui, vous répondez.
Oui. Donc, on l'aura bien compris dans la voix de Mathéo, l'islamo-gauchisme, c'est un terme qui rassemble, dans son expression, qui rassemble tous ceux qui s'opposent au féminisme, qui s'opposent aux luttes antiracistes, etc. Donc, c'est très certainement le cas de Mathéo. Moi, pour ma part, il apparaît clair que le terme islamo-gauchiste, c'est un terme qui est dans la filiation directe du terme judéo-bolchevisme, qui vise à théoriser un complot mondial entre la gauche, l'extrême gauche. Hier, les juifs, aujourd'hui les musulmans, les millions de musulmans français qui seraient sans doute en train de comploter pour prendre le pouvoir.
Laissez terminer Léo.
Ok, merci. Moi, ça m'étonne pas beaucoup de l'entendre sur les plateaux de droite, d'extrême droite, dans la bouche de l'extrême droite, mais ce qui est évidemment d'autant plus choquant, c'est quand c'est dans la bouche de Frédéric Vidal, et on est habitué évidemment à cette rhétorique. Évidemment, Frédéric Vidal, elle s'oppose aux études antiracistes, etc., mais c'est aussi un moyen de détourner l'attention d'un problème vital pour des milliers d'étudiants. Aujourd'hui, il y a des milliers d'étudiants qui sont en train de crever la faim littéralement dans les universités, et comme à l'habitude de ce gouvernement et des gouvernements précédents, on agite le chiffon de l'islam, on cherche à faire peur avec des trucs qui sont tout sauf scientifiques, et encore une fois, c'est dit noir sur blanc par le CNRS et la conférence des présidents de l'université. C'est n'importe quoi dans la bouche d'une ministre de reprendre cette rhétorique de l'extrême droite pour faire passer la pilule sur le fait qu'il y a des gens qui sont en train de crever de faim, qui sont en train de faire la queue pour avoir des colis alimentaires, et que le gouvernement ne fait absolument rien par rapport à ça, laisse crever la bouche ouverte les étudiants. Et de la même manière que quand le gouvernement fait des polémiques à rallonge sur le voile, ils invitent aucune femme voilée pour témoigner, pour leur donner la parole tout simplement. Aujourd'hui, on donne la parole à des gens d'extrême droite pour valider ce que dit Frédéric Vidal contre l'avis même du CNRS et des scientifiques de ce pays.
Non, mais ce qui est ennuyeux dans ce que vous dites, et on va avoir Sacha aussi, c'est que vous semblez dire que l'islamo-gauchisme n'existe pas. Et j'ai sous les yeux...
C'est le CNRS qui le dit, c'est pas moi, c'est le
oui,
CNRS.
Oui, mais le CNRS dit ce qu'il veut. Moi, j'ai sous les yeux la conférence des présidents des universités. Et vous en faisiez... Vous souligniez la prise de parole de ces présidents d'universités. Et elle est sur la même ligne que vous. Elle dit l'islamo-gauchisme n'est pas un concept, c'est une pseudo-notion dont on chercherait en vain un commencement de définition scientifique. Alors c'est vrai qu'il n'y a sans doute pas de définition scientifique, mais ça peut être une réalité. Lorsque par exemple Alexandre Delval dit l'expression islamo-gauchiste désigne les intellectuels, journalistes, militants ou responsables politiques qui refusent de dénoncer l'islam radical sous prétexte de ne pas stigmatiser l'islam, c'est une définition possible. Je ne dis pas que c'est celle-là qu'il faut retenir, mais on voit bien qu'il y a une collusion qui peut exister, disons-le, entre des gens, des personnalités classées à gauche, voire à l'extrême gauche, et les messieurs islamiques. On la voit bien, cette collusion. Et c'est en cela qu'on parle d'islamo-gauchisme. C'est un fait, c'est factuel. Alors, il n'y a pas de définition scientifique. Mais de dire, il n'y a pas de définition, ça n'existe pas et ce n'est pas un concept, ça m'interpelle si on dit ça, parce que c'est de ne pas admettre l'idée que ça existe. Et c'est ce qu'a dit également Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, Léo.
Non mais écoutez, c'est n'importe quoi comme argumentaire pour justifier...
Donc pour vous, ça n'existe pas, l'islamo-gauchisme, ça n'existe pas.
Le problème, c'est que vous ne le définissez jamais. Vous le définissez jamais.
Si, je viens de vous en proposer deux définitions.
Qui c'est qui s'est fait accuser d'islamo-gauchisme ? On a accusé d'islamo-gauchisme toutes les organisations de gauche qui ont manifesté contre l'islamophobie après les attentats à la mosquée de Bayonne. C'est ces gens-là qu'on a accusés d'islamo-gauchisme. Et aujourd'hui, Mathéo, l'autre auditeur, il accuse d'islamo-gauchiste les gens qui étudient, qui défendent une perspective féministe, qui défendent une perspective antiraciste. C'est ça l'islamo-gauchisme pour Mathéo. Donc arrêtez d'essayer de noyer le poisson. L'islamo-gauchisme, c'est
ça n'existe pas, selon vous. Je synthétise, donc c'est un concept d'extrême droite et qui ne correspond pas à une réalité.
c'est un concept d'extrême droite qui vise à dissuader
D'accord.
la gauche syndicale et politique de se battre aux côtés des personnes bon. Musulmanes qui sont opprimées. Et comme on est en train de le voir sur ce plateau, un plateau entièrement d'extrême droite qui...
Quel
qui,
plateau est entièrement d'extrême droite?
Bah, je sais pas, écoutez, l'auditeur...
Bah, vous êtes là pour parler, vous êtes extraordinaire. Vous êtes en train de prouver par le contraire ce que vous dites. Pour le moment, il y a deux étudiants qui ont parlé, Mathéo et Léo. L'un n'est pas d'accord avec vous, et vous, en revanche, vous défendez cette idée que l'islamo-gauchisme n'existe pas.
Bon. On vient encore de voir où vient la tolérance. Ceux qui donnent des leçons quand même sur la tolérance, sur l'ouverture d'esprit, attaquent l'autre. Moi, je vous attaque pas, Léo. Mm. Je suis pas d'accord avec vous. Mais par contre, je vous défends bien de me traiter de fasciste ou d'extrême droite. J'expose un point de vue.
Fasciste, monsieur.
Oui,
monsieur,
excusez-moi,
vous êtes
mais
pas fasciste.
On sent bien
que vous utilisez un concept d'extrême droite, oui, sans souci. Je l'assume, oui, je le signe.
Excusez-moi, je ne sais pas qui est extrémiste entre celui qui va essayer de défendre des valeurs de républicaines et celui qui, par contre, va défendre des associations d'extrême-gauche qui refusent de faire la minute de silence parce qu'un journal, Charlie Hebdo, a été attaqué, monsieur. Donc, si vous parlez d'attaque, moi, je peux vous attaquer aussi. Mais je ne le ferai pas parce que je suis poli, je suis républicain et pas vous.
Arrêtez de dire des choses que vous êtes incapable de prouver, monsieur. Quelle association a refusé de faire la minute de silence?
Trouvez un peu écoutez, vous n'aviez qu'à être dans les universités. Arrêtez,
bon. Léo et Mathéo, moi ce que je vous le propose...
Moi ce que je vous dis, c'est que là vous n'êtes pas en train de discuter avec moi, vous êtes en train de discuter avec le CNRS, monsieur. Mmh. Avec le CNRS...
Non mais le CNRS, ce n'est pas parce que c'est pas non plus parole d'évangile.
Écoutez, oui, c'est pas parole d'évangile, c'est au CNRS que la ministre a demandé de faire enquête. Et c'est le CNRS qui l'a renvoyé dans les camps.
Personne n'en dit ce qu'on vient. Le CNRS, qu'il n'y ait pas une définition scientifique de l'islamo-gauchisme, tout le monde est sans doute d'accord aussi avec vous. Et c'est pour ça qu'il y en a peut-être plusieurs. Mais de dire qu'il n'y a pas de collusion, qu'il n'existe pas de collusion entre certaines personnalités, certains intellectuels, certains hommes politiques de gauche et l'islam, vous en conviendrez, ce n'est pas une réalité de ce qu'on peut voir sur le terrain, c'est tout. Parlons avec Sacha, parce que si vous voulez bien, Léo et Mathéo, parce que Sacha, vous allez voir, Sacha est d'accord avec vous, Léo. Donc, vous infirmez la thèse que ce plateau, comme vous dites, serait d'extrême droite. Bonjour Sacha, vous nous écoutez, vous avez 23 ans, vous êtes étudiant en sociaux. Dites-nous ce que vous en pensez de notre petit débat.
Voilà, bonjour. Alors,
bonjour.
Donc là, je viens de débarquer, j'ai écouté un peu les échanges qui viennent d'avoir entre du coup Mathéo et Léo. Et oui, alors moi, je vais beaucoup reprendre le point de vue de Léo. Pour moi, c'est clair et net que là, je ne sais pas ce qui se passe avec ce phénomène d'islamo-gauchisme. Je ne sais pas d'où ça sort. Enfin, si, je sais d'où ça sort. Ça vient de, comme le dit Léo très clairement, de l'extrême droite. Pour moi, c'est un fantasme de l'extrême droite, cette affaire d'islamo-gauchisme. Et j'ai l'impression qu'à un an des présidentielles, Emmanuel Macron cherche peut-être à gagner quelques électeurs du Front National, enfin du Rassemblement National, pardon. Enfin, du moins, c'est ma façon de ressentir les choses. Et là, je trouve ça quand même aberrant qu'on en fasse des articles dans les journaux, qu'on en fasse une émission spéciale sur RTL, pour quelque chose qui, oui, pour moi, n'existe pas non plus, clairement. C'est un fantasme.
Alors, je vais vous poser la question. Je citais tout à l'heure Céline Masson, qui est enseignante chercheuse à l'université de Lille, lorsqu'elle dit aujourd'hui il y a des étudiants qui font des recherches sur le post-colonialisme, qui étudient l'héritage du colonialisme et qui transforment cela en une obsession contre l'Occident supposé raciste et impérialiste. Est-ce que vous trouvez que ce courant existe, oui ou non ?
Alors, qu'il y ait effectivement une dénonciation des crimes, d'ailleurs, c'est très marrant qu'on parle de ça, parce que Emmanuel Macron, juste avant d'être élu président de la République, disait qu'il était pour reconnaître le colonialisme comme crime contre l'humanité. Donc, c'est très marrant qu'aujourd'hui on dénonce ces mouvements-là, parce que Emmanuel Macron était lui-même d'accord avec ça.
Mais je vous pose la question, est-ce qu'il y a dans l'université des gens qui ont une obsession contre l'Occident? Est-ce que vous en croisez? Et une réécriture de prendre des lunettes de 2021 pour juger 1850, 1900, 1950 et effectivement culpabiliser, si j'ose dire, l'Occident. Est-ce que ça existe ou pas, ce courant-là? Est-ce que vous...
Alors, qu'il y ait, comme j'ai dit, oui, il y a une dénonciation de ce qui a été fait par l'Occident à la période de la colonisation. Ça, c'est clair et net qu'il y a une dénonciation de tout ça et d'un impérialisme occidental, qui, par contre, pour moi, existe vraiment. Alors, c'est peut-être un peu moins virulent qu'à l'époque, mais il existe toujours quand même.
C'est-à-dire que pour vous, l'Occident est raciste et impérialiste?
dans ses fondements, je pense, oui. Mmh. Effectivement. Après, est-ce que, pour autant, on peut dire que je suis pour l'islamisme politique ? Non. Je pense que c'est un raccourci un peu rapide. Et je pense que c'est malheureusement le raccourci qu'on fait aujourd'hui, du moment qu'on dénonce un peu les crimes de la France ou d'autres pays occidentaux. Du moment qu'on dénonce ces crimes-là, ça y est, on est... on veut, je sais pas trop quoi, on veut l'islamisme, on veut la charia, alors que c'est pas du tout le cas. C'est un raccourci, en fait, c'est du moment qu'on s'oppose aux dogmes voulus par le pouvoir, enfin, les dogmes du pouvoir, on va dire, du moment qu'on s'oppose à tout ça, ça y est, on est ultra violent, on veut détruire la démocratie, enfin, c'est des raccourcis que je trouve pas tolérables, enfin, je trouve pas ça tolérable du tout, en fait.
Eh bien merci beaucoup pour cet échange et puis tous ceux qui nous écoutent se feront une idée, peut-être une opinion sur ce qu'ils ont entendu. Sacha, Léo, Mathéo, merci. On va refermer ce sujet et nous allons parler de Georges Tron qui a été, vous le savez, condamné hier à de la prison ferme alors qu'il avait été acquitté dans un premier procès. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Disons-le, Laurent Tessier, les sujets du jour ne poussent pas à la franche rigolade. L'islamo-gauchisme, d'un côté, là, on va parler de l'affaire Georges Tron, c'est pas forcément très souriant.
La cour d'assises de Paris a condamné en appel Georges Tron à 5 ans de prison, dont 3 fermes. L'ex-secrétaire d'État a été jugé pour viol et agression sexuelle en réunion sur une collaboratrice de sa mairie de Draveil dans l'Essonne. Vous pourrez réagir dans quelques instants au 32-10. Êtes-vous toujours à l'heure pour récupérer vos enfants à la garderie ? Faut-il pénaliser les parents qui ont du retard ? À Moreuil dans la Somme, ce sera le cas. La mairie a décidé de punir les retardataires à hauteur de 5 euros pour 15 minutes, 10 euros pour une demi-heure et 50 euros pour une heure de retard. Une décision qui se justifie facilement pour le maire de Moreuil, rencontré par Valentin Winato.
Quand on vous dit, j'étais en train de boire à l'apéro avec le voisin et je me suis pas aperçu que, c'est pas excusable. Et on considère que les agents ne sont pas corvéables à merci. Ce sera du cas par cas en fonction des excuses qui auront été fournies, bien évidemment.
Vous trouvez ça normal? Il est temps de responsabiliser les parents. Eh bien, c'est logique pour Marie. Respect des personnes qui travaillent, respect des enfants. Ce n'est quand même pas compliqué. Du grand n'importe quoi pour Amandine sur nos réseaux sociaux. Ça peut arriver 15 minutes de retard, une mesure inutile. Et vous, qu'en pensez-vous? 32-10. Faut-il interdire l'écriture inclusive dans tous les documents administratifs? Une 60aine de députés, principalement issus de la majorité et de l'opposition, les Républicains, lancent un appel dans ce sens. Et ça me fait mal aux yeux, critique tirée sur la page Facebook de l'émission. C'est du grand n'importe quoi, on est en train de tout remettre en question. C'est insupportable, nous dit Isabelle. Je n'arrive pas à lire ces sottises, c'est totalement contre-productif, c'est illisible, rajoute Mireille. Marie s'énerve aussi, comment voulez-vous que les futures générations s'y retrouvent? Eh bien pour vous, au contraire, il est temps de mettre en avant l'écriture inclusive. 32-10, dès maintenant, 3-2-1-0.
Merci Laurent. Et la justice a donc condamné hier soir Georges Tron à 5 ans de prison ferme, dont 3 avec sursis. Il a passé sa première nuit en prison. Cette même justice avait acquitté Georges Tron en 2018 pour les mêmes faits, à la différence qu'il ne s'agissait pas du même tribunal, bien sûr, et que l'atmosphère en 2018 n'était pas celle de 2021. Donc la justice est-elle soumise au climat du jour? C'est une interrogation. L'autre sujet sera l'emprise quand un lien hiérarchique existe dans une entreprise entre deux personnes. Est-ce que ce juge fera jurisprudence, ce sont des débats que nous allons ouvrir à l'instant. Bonjour Sophie, vous habitez dans l'Essonne, quel est votre sentiment?
Moi j'habite Draveil.
Oui.
Je connais très très bien Monsieur Tron, parce que je faisais partie d'une association que je ne dirai pas parce que je ne veux pas qu'on sache de quelle association je faisais. J'ai vu Monsieur Tron plusieurs fois. C'est vrai qu'il était très tactile, mais je pense que ces deux femmes, ils sont retournés quand même. Peut-être abusées, même pas abusées, juste tactiles.
Mais on n'a pas à être tactile quand t'es maire d'une ville, vous voyez ce que je veux dire? Dans l'univers professionnel...
Mais c'est les politiques.
C'est politique. Dans l'univers professionnel, si t'as un peu de pouvoir...
Je travaillais pour la mairie de Draveil.
Mais tu n'as pas à imposer à l'autre à le toucher, par exemple. Et d'autant si t'es en situation de
C'était
pouvoir.
C'était à l'époque où on se faisait tous la bise, où on se faisait tout machin.
Déjà, la bise, faut être deux pour la faire. Si on est un peu plus amis, peut-être. Mais a priori, tout le monde ne s'embrasse pas ou ne s'embrassait pas. puisqu'aujourd'hui, de toute façon, il y a des gestes barrières. Mais vous, par exemple, vous dites que vous le connaissez bien.
Mais on n'y retourne pas pendant 3 ans.
Moi, je ne veux pas juger parce que je ne peux pas, comment dire, par définition, on connaît mal le dossier.
On ne peut pas y retourner pendant 3 ans.
Bah, c'est ce qu'on appelle l'emprise, précisément.
Bah, l'emprise, moi, il m'aurait touché qu'un seul de mes cheveux, j'allais porter plainte.
Mais vous étiez salarié de la mairie? Sophie?
Oui.
Vous n'avez pas répondu, vous étiez salarié, si j'ai bien compris,
oui,
de la mairie?
Oui, j'étais salarié de la mairie.
D'accord. Bon, et donc quand vous dites que vous le connaissez bien, il a, avec vous, ça s'est toujours bien passé? Et pardonnez-moi peut-être cette question directe.
Il m'a fait la bise, machin et tout. Je lui dis, mais monsieur Tron, on ne se connaît pas.
Bon. Donc ce que vous voulez dire, c'est que c'est finalement à la personne de savoir résister.
Exactement.
Mais tout le monde n'a peut-être pas votre force de caractère et on arrive toujours sur les mêmes sujets. C'est que précisément, ceux qui ne peuvent pas résister, bah, faut peut-être que la société les aide parce qu'ils sont peut-être plus fragiles que vous.
Oui, ok. Mais bon, on n'y retourne pas pendant 3 ans. On porte plainte, on a un commissariat de Raveil qui est ouvert.
Bon, est-ce que
et
c'est...
Madame Gruel, c'est pareil.
Aujourd'hui, vous êtes toujours à la mairie de Draveil?
Je peux pas le dire.
D'accord. Bon. Et je vois sur votre fiche qu'il avait essayé, ce qui est une drôle, effectivement, de manière d'entrer en contact avec les uns et les autres, de vous, pardonnez-moi, de vous toucher les pieds, c'est cela?
Ouais. Et ben moi, je lui ai dit non.
Mais c'est-à-dire, il vient vers vous et il vous dit, est-ce que je peux vous faire un petit massage des pieds?
Non, non, il vient, c'était à des fêtes d'association, de machin, d'association, et il vient, il venait, et c'est vrai qu'il avait tort.
Non, mais ce qui m'intéresse, c'est comment tu arrives dans un univers professionnel à proposer ce type...
Ah non, mais c'était pas dans un univers professionnel.
C'était dans un univers plus amical.
Associatif.
Là, je vous entends plus, là. Qu'est-ce qui s'est
passé ?
Associatif. Mais comment se met en place ce type de conversation ?
Parce que c'est la fête de l'association, il arrive, il discutait, et voilà, mais moi...
Et il vous dit, je vous toucherai bien les pieds, c'est ça ?
Non, même pas. On était dans l'herbe, parce que Draveil, c'est une ville quand même assez verte. On a cette chance d'avoir quand même un endroit sympa dans la région parisienne. Et il arrivait et voilà. Et ben, par contre, moi, je...
Non, mais non. Voilà, j'arrive pas à vous faire m'expliquer. Et voilà, ça veut dire quoi? Comment ça se passe, Sophie? C'est ça que je veux savoir.
Comment ça se passe?
Oui.
Bah, il arrive, il discute avec vous et il veut commencer. Il voulait commencer.
Il voulait commencer quoi ?
À avoir touché les pieds parce qu'on était pieds nus dans l'herbe.
D'accord. C'est quand même étrange comme communication, disons-le.
Comment ?
Je dis, c'est un peu étrange comme communication.
Ouais, voilà. Mais moi,
et vous lui avez dit non. Vous lui avez dit, vous êtes casse-pieds, monsieur Tron.
Exactement. On n'a pas élevé les cochons ensemble.
C'était une petite boutade.
Bon, bah écoutez, merci. Merci, Sophie. Bon, donc sur le fond, pour synthétiser votre pensée, vous trouvez que cette peine n'est pas forcément justifiée?
Non, pour moi, elle n'est pas justifiée.
D'accord.
Je pense que c'est politique. Que c'est une histoire politique.
D'accord.
Dans la ville de Draveil.
Bon, bah écoutez, on va prendre Véronique. Parce que Véronique, manifestement, elle n'est pas forcément d'accord avec vous. Je la salue, Véronique, qui habite Le Mans.
Bonjour,
et qui vous écoutait. Bonjour, Véronique.
Oui, quand j'entends, oui, on n'avait qu'à pas y retourner, déjà, il y a une emprise du fait que c'est un homme sur une femme. Déjà, c'est une emprise qu'on voit maintenant aujourd'hui quelles sont les emprises. Et il y a l'emprise également de l'employeur sur le salarié. Donc, on sait très bien, moi, je l'ai vécu, que quand on dit non à un employeur, on risque sa place. Même s'il fait une demande qui n'est pas justifiée, comme vous disiez tout à l'heure, quel est l'intérêt, enfin, on ne touche pas les pieds de quelqu'un, non. Mais on sait très bien que quand on refuse quelque chose à quelqu'un qui vous emploie et que ça le blesse, la porte de sortie n'est pas loin. Donc, moi, je ne veux pas entendre, oui, mais à quel point y retourner. Enfin, c'est à un moment donné, on est aussi sous cette emprise-là. Et puis, on ne propose pas, quand on est maire, de masser les pieds de quelqu'un. Enfin, c'est très déplacé. C'est très déplacé.
Vous résumez assez bien la situation. Mais ce qui, quand même, peut nous troubler, il y a un côté, parfois, la justice à pile ou face. En 2018, Monsieur Tron est acquitté par les mêmes faits, et c'est une autre cour d'assises. Il y avait que six personnes cette fois-ci et trois magistrats professionnels. En appel, il y a neuf jurés populaires et il y a trois magistrats professionnels. Et là, il est condamné. Et il y avait eu avant que le procès soit renvoyé aux assises, il avait eu déjà un non-lieu.
Ben oui, mais
et puis le parquet avait fait appel et puis ce non-lieu s'est transformé finalement en procès et ça. Donc c'est ça qui nous trouble toujours, parce qu'on se dit la justice c'est vraiment pile ou face. Une fois tu ne l'es pas.
Mais Pascal, écoutez, moi j'ai été femme de médecin pendant 18 ans, j'ai reçu moi dans ma salle à manger des avocats, etc. et tout. Faut savoir que vous avez beaucoup de procès qui se passent le samedi soir, dans les dîners. Bon, je te dis ok pour ça, bon bah toi tu me dis ok pour ça.
C'est-à-dire
la justice en France n'est pas une justice.
Mais comment ça se passe le samedi soir connu, les avocats et les présidents s'échangent les condamnations?
Mais... ils en
j'ai jamais entendu
bon,
ça.
Bah, ok, bah, attendez, mais moi je l'ai vécu de vie. Enfin voilà, il y a des arrangements parce que il y a des gens qui sont connus et qu'il faut faire attention. Et que,
bah là c'est le contraire. Si vous me permettez aujourd'hui, quand t'es connu comme vous dites, à mon avis c'est contre.
Oui, mais là aujourd'hui pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les langues se délient, parce qu'aujourd'hui de ne pas condamner quelqu'un alors qu'on a quand même des choses qui sont très lourdes du fait de toucher les pieds de ses salariés, ça veut dire qu'il y a quand même des choses derrière, il n'y a pas de fumée sans feu. Là je pense qu'on se dit on ne peut pas le laisser partir sans condamner, parce qu'on a depuis 2-3 ans effectivement des femmes qui osent parler, des salariés qui osent dire voilà ce qui se passe, puis le milieu politique on s'aperçoit que c'est un milieu, attendez excusez-moi, mais qui n'est pas joli joli quand même. Voilà, tous les milieux où il y a un pouvoir, le pouvoir, regardez dans le milieu des entraîneurs, etc., quand on s'aperçoit que les hommes, peut-être les femmes aussi, mais peut-être plus les hommes, qui ont cette habitude depuis des générations d'avoir une emprise sur les femmes, quand ils ont en plus le pouvoir, on s'aperçoit qu'il y a des débordements qui sont monstrueux. Alors, attention, moi je vais vous dire un truc, c'est que je suis pas d'accord non plus pour dire les hommes sont tous des salauds, parce que j'ai autour de moi, et je l'ai entendu, vous avez aussi des femmes aujourd'hui qui profitent de ça pour, dans des divorces, etc., dire je prononce le mot violence, je dis que mon mari était violent, et comme ça il va tout prendre sur le dos. Donc à un moment donné, il va peut-être faire comprendre que les hommes et les femmes, on est fait pour s'unir, on est fait pour vivre ensemble et pas pour se taper dessus en permanence. Pas à un moment donné la suprématie des hommes pour partir maintenant dans la suprématie des femmes. Je suis pas du tout féministe. Et ça, je ne supporte pas. Mais à un moment donné, je pense que ça fait des années et des années qu'on a des hommes qui ont des pouvoirs et qui profitent de ces pouvoirs, et qu'il est temps, effectivement, que les choses changent. Alors peut-être que lui, il estime que ce qu'il a fait, c'est pas grave, etc. Dans les problèmes de justice, il y en a toujours qui payent pour les autres. Peut-être que c'est lui qui va payer pour les autres. Mais je crois qu'on avait besoin d'avoir un peu un exemple d'un homme qui a un pouvoir, qui est en politique, qui a fait des choses pas très joli et qui est condamné. Et moi, je dis, c'est un exemple. Et c'est
non,
très
mais
bien.
Vous avez, hélas, j'ai envie de dire raison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui se conduisent mal dans les entreprises sur un plan moral, qui aujourd'hui doivent un peu faire attention et qui sans doute ont peur. Et
ça
effectivement,
fait longtemps que ça existe, Pascal.
Oui,
moi,
mais je sais bien.
J'avais une vingtaine d'années.
Mais il n'empêche que la justice, ce qui importe, c'est quand même qu'elle soit, en dehors, a priori, de l'opinion publique. Vous savez, il y avait cette phrase de Maître Lombard, qui était un grand avocat en 1976, qui était l'avocat de Christian Ranucci, l'un des derniers condamnés à mort. Il avait dit « N'écoutez pas l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Elle est une prostituée qui tire le juge par la manche. Il faut la chasser de nos prétoires, car lorsqu'elle entre par une porte, la justice sort par l'autre. »
Par l'autre, oui.
Voilà, donc c'est difficile, mais effectivement que des hommes, depuis la nuit des temps, se conduisent mal avec des femmes, et notamment dans l'univers professionnel, on est hélas tous d'accord. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
La conquête de la planète Mars vous fait-elle rêver ? Après 7 mois de voyage, le rover Perseverance de la NASA doit atterrir sur la planète rouge ce soir à 21h55 heure française. Il cherchera des traces de vie ancienne. Et la question la plus importante, iriez-vous sur Mars? Bah ça dépend s'il y a du wifi, nous dit Sébastien. Très bon. Le temps de voyage est quand même de 3 ans aller-retour, rappelle Axel. Commençons déjà par protéger notre planète, rappelle Cyr. Commentaire partagé par Pierre sur la page Facebook de l'émission. Gérons déjà ce qu'il se passe sur notre belle planète Terre.
Vous iriez sur Mars, Pascal?
J'irai sur Mars. Vous voulez que j'aille sur Mars?
Non, mais je vous pose la question. Vous iriez, vous?
Ah non.
Non, parce que vous en venez.
C'est drôle, vous l'aviez préparé.
Non.
Il y a des petites blagues comme ça qu'on peut faire. Non, il y a une information majeure que vous n'avez pas donnée.
Laquelle?
Le journal de TF1, 13h, n'a pas eu lieu aujourd'hui. C'est-à-dire que le journal n'est pas parti. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui font des blagues, disant c'est peut-être Jean-Pierre Pernaut qui a saboté cela parce qu'il a quitté le journal il y a quelques jours. Mais c'est vrai que c'est une information majeure, tout à fait exceptionnelle, qui sera commentée parce que c'est pas rien, évidemment, comme information. Ce journal, pour des raisons techniques, n'a pas pu avoir lieu. Alors, je ne sais pas s'ils ont réussi à remettre la machine en route, mais effectivement, c'est tout à fait exceptionnel.
Bienvenue aux téléspectateurs qui nous ont rejoints.
Mais bien sûr, je les salue. Hein. Nous donnons toutes les informations du jour. C'est une information, bien sûr. Je remercie donc Véronique qui effectivement trouvait que c'était une bonne solution que ce jugement, en tout cas une bonne jurisprudence que ce jugement. Et nous sommes désormais avec Françoise qui est infirmière. Bonjour Françoise. Et
bonjour.
Qui voulait réagir.
Oui, bonjour. Moi, d'une façon beaucoup plus large, je voulais réagir à toutes ces affaires de viol et inceste qui, en ce moment, remplissent toutes les médias. Et on est dans une effervescence sociale sur ce sujet. Je voulais appeler à la prudence, raison gardée. Je trouve qu'on oublie tout ça. Et effectivement, si cette affaire devait faire jurisprudence, alerter sur une justice qui n'aurait plus besoin de preuves pour condamner, la preuve, c'est quand même le document qui établit la réalité d'un fait. En matière pénale, le procureur de la République doit apporter la preuve d'une infraction, ainsi que l'application d'ailleurs de la personne qui est poursuivie pour telle. Sinon, on peut imaginer n'importe quelle dérive. Je suis tout à fait convaincue qu'il est nécessaire et légitime que les victimes puissent être reconnues, entendues en tant que telles et que les auteurs soient punis. C'est essentiel et primordial. Mais attention... Attention aux dérives et quant à l'appréciation des jurés dans un climat tel qu'il est actuellement, médiatique, social, très agité, très turbulent sur ce sujet, on peut imaginer qu'il y ait une influence sur la vie des jurés.
Ça c'est évident. C'est évident, c'est pas un hasard si en 2018 il est acquitté, en 2021 il est condamné.
Tout à fait.
Je veux dire, en 3 ans, on voit bien que les choses sont différentes et notamment la parole des victimes est entendue. Et c'est convenu que c'est une bonne chose qu'on entende aujourd'hui les victimes.
Mais
parce qu'avant,
on ne
les entendait pas.
C'est vrai, avant, on ne les entendait pas. Alors,
on ne voulait pas les entendre.
D'un extrême dans l'autre, tout en gardant la légitimité et attention à ce qu'on dit. Effectivement, les victimes doivent être reconnues et les auteurs punis. Mais il serait bien aussi que ça ne soit pas une parole à sens unique. Jamais, jamais on ne parle des accusateurs, de leur souffrance, de leur vie détruite, des cas de suicide, des jugements d'autrui, de leur carrière professionnelle détruite. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de rencontrer une association qui s'appelle Les Faux Souvenirs Induits. Et j'étais atterrée parce que j'y ai trouvé...
Mais oui, paraît-il que ça aussi, il faudrait faire témoigner
c'est
parfois.
C'est quelque chose d'hallucinant.
Mais là, on n'est pas dans ce cas-là. Hein, là.
Non, mais c'est quand on parle de viol et inceste, on parle de tout ça. Je voulais rebondir sur ce sujet-là aussi. Et j'ai lu Elisabeth Loftus, qui est une psychologue américaine de l'Académie nationale des sciences américaines, qui est spécialiste de la mémoire humaine. Elle a travaillé sur la malléabilité de la mémoire, des souvenirs. C'est une pionnière de la psychologie judiciaire. Elle est engagée en permanence contre les erreurs judiciaires. Et je pense qu'il faut aussi que les gens soient alertés. Fasse attention. Les souvenirs, ils peuvent être modifiés, supprimés ou carrément créés de toutes pièces. Par des thérapeutes, dit-on. Et là encore, c'est de les repérer parce qu'ils sont autant texturés que les vrais.
Pas des thérapeutes, des charlatans. Hein, parce que là, ça serait vraiment des charlatans. Ceux qui font ça, mais c'est vrai qu'il paraît que certains témoignent, je veux dire, de bonne foi, de souvenirs qui n'ont pas existé. Mais ils sont de bonne foi, il n'y a pas de manipulation ou de perversité. Ils s'inventent des choses qui n'ont pas existé.
La personne, tout à fait. La personne y croit réellement.
Oui.
C'est une personne qui se remémore un événement qui n'a jamais eu lieu. Ouais, ça, mais elle, terrible. Elle y croit. Elle le sait. Et tout ça, c'est un vrai danger, c'est une bombe. Et je pense qu'effectivement, il faut raison garder et prendre tout le bien que, enfin, la parole des femmes soit entendue et reconnue. Mmh. Et ne pas être des loups affamés de justice à n'importe quel prix, quoi. Attention et gardons la raison et soyons sensibles à tous ces paramètres qui peuvent être importants dans une affaire de justice.
Ben merci, voilà. François, c'était vraiment très intéressant de vous écouter. Effectivement, vous nous invitez à faire attention à la nuance, à la modération. Lynn est là également. Il y a beaucoup de femmes qui nous appellent. C'est très intéressant d'ailleurs que ce soit majoritairement des femmes qui s'expriment sur ce sujet. Bonjour Lynn, vous habitez Neuilly-sur-Seine.
Oui, bonjour. Bonjour à vous tous. Alors, sur le procès de Pascal Praud, moi je veux dire
le
que...
Le procès
oui,
de Pascal Praud.
Le procès de Georges Praud, excusez-moi.
Attendez, vous êtes gentil, Lynn. Vous voulez travailler pour le débrief de monsieur. Vous êtes un coup monté.
Oui.
Vous travaillez pour le débrief de Laurent Tessier. Ça y est, j'ai mon procès maintenant.
Je veux dire que moi j'ai été victime comme ça de harcèlement moral par un élu. Et je peux vous dire que c'est incroyable comment cette personne peut avoir de l'emprise. Et moi j'ai osé ensuite porter plainte au prud'homme. Mais je me suis battue. Je me suis battue parce qu'au-dessus de lui, il était protégé par un président qui était maire de la banlieue dans laquelle il était élu. Et entre les deux, il y avait un directeur général, et le directeur général savait très bien que j'avais raison, mais il n'a jamais pris position pour moi. Et cet élu, il m'a fait la misère à 3 mois de mon départ en retraite, voyez, tout ça pour placer sa copine à ma place. Donc je peux vous dire que dans mes collègues, personne n'a voulu, avait peur. Tout le monde en avait peur.
Oui, mais là,
peur.
C'était un harcèlement qui était d'ordre moral. Il n'y avait pas de sexualité induite.
Je veux vous faire voir que l'abus de pouvoir, c'est vrai et ça existe.
Bien sûr, oui, mais on se doute que ça existe.
Et donc, si vous voulez, ce qui s'est passé quand vous dites en 2018, ça a changé. Oui, depuis 2018, la société a changé. La société a été choquée par les révélations de certaines personnes, des élites, qui ont pu faire des choses inappropriées, même obscènes. Eh bien, il est temps que ça change. Oui,
mais est-ce que là, en l'espèce, Monsieur Tron est coupable, c'est ça la question.
Attendez, vous dites.
Et la justice a dit oui.
Ce matin, sur votre plateau, vous avez repassé un interview d'Éric Dupond-Moretti qui disait, de 2017, qui disait: vous savez que les politiques ne sont plus protégées par les juges. Bah, peut-être qu'en 2018, lui, il était encore protégé par des juges. Eh bien, aujourd'hui, si vraiment on peut penser que la justice est indépendante, c'est un bien grand. C'est très, très bien. Mmh. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est pas normal qu'un maire ait envie que quelqu'un de tripoter ses pieds, je dirais même de se masturber les doigts de pied, eh bien c'est pas normal. Eh bien qu'il paye pour ça, je suis désolée. Oui, de toute façon vous savez très bien, Pascal, qui ne fera pas 3 ans de prison, il va demander sa remise en liberté, et puis c'est tout. Il faut que ça fasse sens, ce procès, voyez. Il faut que ça fasse sens. Et s'il y a une jurisprudence, ben oui, parce que l'abus de pouvoir, ça existe vraiment. Et ça rend des gens malades. Et ça, vous ne faites pas attention aux dommages collatéraux qui se passe ensuite. Parce que moi, je peux vous dire que cet abus de pouvoir sur moi, ça m'a valu une dépression nerveuse. Quand vous partez en retraite de cette façon-là, je peux vous dire que c'est vraiment pas agréable. Voyez ? Et moi, j'estime que par la suite, cette personne a payé, parce que moi, j'ai osé, et je peux vous dire qu'il y avait une personne qui a subi la même chose, elle n'a jamais osé aller au prud'homme. Moi, j'ai osé aller au prud'homme. Voyez.
Et vous avez gagné.
Oui, et j'ai gagné.
Eh bien, écoutez,
Et ils ont fait appel, et après, ils se sont rendus à dire bah non, on ne fait pas appel, parce qu'il y avait trop d'éléments qui montraient que j'avais raison. Mais c'est pour vous dire que l'abus de pouvoir, c'est bien. Le pot de terre contre le pot de fer, ça ne doit plus exister.
Merci, Lynn. Et moi, j'aime bien la phrase de Camus, un homme, ça s'empêche. Et c'est vrai qu'un homme, il me semble digne de ce nom, qui est en situation de pouvoir, doit effectivement, dans l'univers professionnel, doit faire attention à ce qu'il fait et doit effectivement ne pas imaginer de relations amoureuses avec les gens avec lesquels il travaille. Alors c'est peut-être un peu moral ce que je vous dis là, de la même manière qu'un homme de 50 ans, 55 ans ne doit pas regarder une fille de 20 ans parce que c'est pas sa place. Mais j'ai bien conscience que ce que que je dis là est moral aussi, donc ça peut être contesté, bien évidemment, surtout quand tu es en situation de pouvoir. Mais il me semble que c'est une manière de se comporter et de retrouver la phrase de Camus, un homme, ça s'empêche. Je suis un peu perle à morale, monsieur Caranoni, en disant cela.
Non, non, pas du tout. Moi, je ne connaissais pas cette phrase de Camus.
Elle est bien, cette phrase. Elle est vraiment bien, je trouve. 13h54, nous changeons de conversation.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors, on va parler de l'écriture inclusive. Bon, d'abord, l'écriture inclusive, je ne suis même pas sûr que tout le monde sache précisément ce que c'est. Brigitte, bonjour.
Bonjour Pascal.
Est-ce que vous sauriez la définir, cette écriture inclusive? Parce que je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent « Mais c'est quoi l'écriture inclusive ?»
Eh bien, si je devais la définir, je pense, par analogie, que je dirais « Globibulga ».
Oui.
Voilà. Point. je trouve ça très laid. On a une langue magnifique, la langue française, et ça ne ressemble plus à rien.
Alors, je vais quand même la définir pour celles... D'ailleurs, celles et ceux, c'est déjà une manière de parler le langage inclusif. Parce que théoriquement, on doit dire « pour ceux », puisque le masculin l'emporte sur le féminin. Si voilà. Je dis « celles et ceux », déjà, je suis dans un langage inclusif. L'écriture inclusive est née de la volonté de faire changer les mentalités sur l'égalité homme-femme sur le langage. En français, la règle grammaticale est que le masculin l'emporte lorsqu'il y a des... femmes et des hommes dans un groupe, c'est précisément ce point que l'écriture inclusive souhaite revisiter pour mettre le féminin à égalité avec le masculin. Alors, comment écrire en écriture inclusive? L'écriture est inclusive, définit trois règles d'orthographe pour mettre en avant le féminin. Règle 1, mentionner par ordre alphabétique les termes au féminin et au masculin. Règle 2, utiliser un point milieu pour marquer le genre des mots. Le candidat, point, point. Je ne sais même pas si c'est très clair ce que je dis pour ceux qui nous écoutent. Et règle 3, ne plus utiliser les majuscules de prestige à homme ou femme.
Oui, bon, je ne sais pas. Bon. Eh bien, moi, ça me donne envie de... J'aime bien écouter Laurent Gérard tous les matins. J'aimerais bien qu'avec son équipe, il nous fasse un pastiche des précieuses ridicules avec tout ça. Et ce serait très compréhensible. Mmh. je trouve ça, oui, ridicule. Effectivement, c'est du féminisme mal placé. Moi, j'ai vraiment pitié des pauvres hommes. Là, on est en train de les massacrer. Je ne trouve pas qu'ils sont si méchants que ça. Quand il y a des tordus, c'est aussi bien des hommes que des femmes. Il y en a partout et ça n'a rien à voir avec le sexe des gens.
C'est-à-dire qu'on considère effectivement, si on vous dit vous êtes contre l'écriture inclusive, donc vous êtes contre l'égalité homme-femme, parce que c'est ça en fait qui est compliqué. Moi j'ai envie de dire ça n'a rien à voir. L'égalité homme-femme n'a rien à voir avec l'écriture inclusive.
Bah, absolument. Enfin bon, c'est
me semble-t-il.
Une erreur absolue. Et ce que j'aimerais bien savoir, moi, la question que je me pose, c'est chez nos voisins italiens, allemands, néerlandais, tout, comment ça se passe?
Parce que le neutre,
bon,
alors
les Allemands,
ça...
ils ont le genre neutre.
Ouais, mais... ils ont le genre neutre, et pareil en Angleterre. Mais évidemment, il n'y a que nous, a priori, qui avons cette écriture inclusive.
Oui. Mais en fait, c'est un genre de névrose collective, je sais pas. Je ne sais pas comment définir ça.
C'est encore les minorités actives qui font peser sur la société leur volonté.
Là, je crois qu'il faut qu'on leur ferme le bec parce que c'est pas possible.
On va en parler entre 14h et 14h30. Mais aujourd'hui, pourquoi on en parle? Parce qu'il y a une soixantaine de députés qui sont issus de la majorité et de l'opposition républicain. Qui appelle à interdire l'écriture inclusive dans les documents administratifs pour les personnes morales chargées d'une mission de service public. Et c'est une proposition de loi transmise à l'Assemblée ce mercredi 17 février. Et c'est François Jolivet qui décrit l'écriture inclusive comme un choix personnel et militant et en rien majoritaire qui brouille les messages. Et notamment, moi je pense aux élèves dyscalculiques, dyspraxiques, dysphasiques, etc. C'est l'enfer pour eux, parce que déjà ils ont du mal à lire. Mais si vous mettez cette écriture-là, là ils sont complètement perdus. A tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RT.
Il est 14h. Le flash avec Yann Boucherie.
Bonjour à tous. Le secteur aéronautique plombé par la crise du Covid, privé des deux tiers de ses clients, Air France KLM a perdu 7 milliards d'euros l'année dernière, alors que son chiffre d'affaires s'est effondré de 59% par rapport à 2019. 3600 salariés ont déjà quitté la compagnie en 2020. Ils seront 7500 au total fin 2022. Airbus, de son côté, a limité la casse avec une perte nette de 1,1 milliard d'euros, loin des 12 milliards de dollars perdus par son concurrent Boeing. C'est aussi une des conséquences de la pandémie. Les demandes d'asile dans l'Union européenne ont chuté de 31% en 2020 pour atteindre leur plus bas niveau depuis 2013, principalement en raison des restrictions de circulation. Les principaux pays d'origine restent inchangés, avec en tête la Syrie, puis l'Afghanistan, le Venezuela, la Colombie et l'Irak. Attention aux tatouages. Selon une étude de l'UFC Que Choisir, 75% des encres les plus utilisées en France présentent un risque sanitaire élevé. Des tests effectués en laboratoire révèlent qu'elles comportent des colorants interdits ou des substances cancérogènes qui sont injectées dans l'organisme. Un nouvel arrivant sur Mars, le dernier rover de la NASA Perseverance, lancé en juillet dernier, doit atterrir ce soir à 21h55 sur la planète rouge pour rechercher des traces de vie passée. Pas de JT de 13h aujourd'hui sur TF1. Un bug technique a empêché la diffusion du journal de la mi-journée sur la première chaîne. En tennis, Novak Djokovic s'est qualifié pour sa 9e finale de l'Open d'Australie. Il a dominé le russe Karatsev, issu des qualifications en 3 petits sets. Les courses à Vincennes avec l'arrivée provisoire du Quintet. Il fallait jouer le 15, l'As, le 10, le 6, le 13. La météo, de la pluie cet après-midi des Hauts-de-France à la Nouvelle-Aquitaine. Temps sec en allant vers l'est, sauf en Méditerranée, avec quelques entrées maritimes. Les températures cet après-midi, elles oscilleront de 9 à Caen à 21 à Tarbes. RTL, 14h02. Pascal Praud, je vous rends la parole.
Est-ce que vous avez écrit en écriture inclusive votre flash? Est-ce que vous voulez que je vous donne un exemple d'écriture inclusive?
Allez-y.
Alors, par exemple, je vais dire les auditeurs sont divisés. Alors, en écriture inclusive, ça donne les auditeurs, je mets un point. Ensuite, je mets Trice, T-R-I-C-E-S, puisque c'est au pluriel, je remets un point. Son, adverbe, pas de problème. Divisé, j'écris divisé. Et, je mets un point. Je mets un E. Et après, je mets un point. Et après, je mets un S. Vous m'avez suivi? Divisé, hein, j'ai écrit divisé et point E point S. Donc les auditeurs tristes sont divisés, etc. Alors évidemment, là, j'ai pris j'ai inclusif. Tout le monde comprend. C'est-à-dire qu'auditeur est devenu auditrice et divisé est devenu, bon, j'ai fait part. Alors qu'autrement, je dirais les auditeurs sont divisés. Et dans les auditeurs, évidemment, j'avais inclus les auditrices. Est-ce que c'est
compliqué? Je trouve ça extrêmement clair.
Je sais, mais c'est clair. Mais moi, à la
je vais
fin,
réfléchir
on
à
va
tout
devenir
ça,
fous, en fait. On va devenir tous fous. Gilles, bonjour. Gilles qui est artisan.
Bonjour Pascal.
Bonjour Gilles.
Voilà, je suis d'accord avec les députés. Le premier point, c'est que si on devait réviser la manière, la phraséologie de tout ce qui est formulaire administratif, on pourrait commencer par les rendre lisibles. Mmh. Et ça, avant d'inclure l'inclusif. Parce que franchement, il y a beaucoup de formulaires qui sont, disons-le, imbitables. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'inclusif existe déjà. Quand j'écris un courrier, je dis « Madame, Monsieur, soyez assurés ». Je mets le E entre parenthèses et voilà l'inclusif. Ça nous met pas une machine de guerre invraisemblable. Je me demande de quel esprit malade ça sort.
Bah, soyez assurés, madame, monsieur. Oui, là, dans l'exemple
Citez. Oui, mais en fait, dans la plupart des cas, vous pouvez faire ça. Et puis, si vous avez un doute et que vous voulez vraiment froisser personne, vous dites, chers auditrices, chers auditeurs, quand le président s'adresse à la France, il ne dit pas « chers français, point E, point S », il dit « chers français, chers français, tout le monde comprend ». Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Il faut vraiment avoir l'esprit tordu. Et puis, il y a un côté dictatorial, les ayatollahs de la pensée. Moi, je sais mieux que tout le monde et je veux imposer mes vues. Ça n'a pas, et que des gens veuillent écrire comme ça, ça les regarde. Après, non, moi, je reçois un CV comme ça dans ma boîte, je le mets directement à la poubelle.
Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais là où vous, si vous me permettez, il y a un enjeu idéologique derrière tout ça.
Ah, mais on est bien d'accord.
Et
c'est l'idéologie.
Et c'est cet enjeu idéologique qu'il faut évidemment souligner. C'est ça qui est intéressant dans ce débat. Et c'est quoi l'enjeu idéologique, à votre avis?
Eh bien, justement, je me pose la question. Ça, c'est comme les gens qui veulent censurer autant on emporte le vent ou autre. C'est moi j'ai raison et les autres ont tort.
C'est simple. On peut dire que, Parce que, pardonnez-moi, ça vient souvent du même côté. C'est une forme de gauchisme culturel qui sévit et qui impose un idéal différentialiste sur des nouvelles questions culturelles. Parce que ça vient effectivement plutôt de ce côté-là.
Ça, c'est clair. Ça s'appelle diviser pour régner.
Bah, ça, je ne sais pas, mais c'est un idéal différentialiste sur les questions culturelles, telles que le racialisme et le féminisme.
Quand j'entends la féminisation de certains noms, j'ai entendu, je crois que c'était sur votre antenne ou peu importe d'ailleurs, autrice. Bah, je pense qu'on a une langue qui est jolie, on aurait dit auteur avec un E, ça choque moins l'œil, ça choque moins l'oreille, je veux dire. Bon, on a une jolie langue, il y a des règles.
Alors on va quand même essayer d'avoir quelqu'un qui est pour, parce qu'il n'y a eu que des gens contre. On va essayer d'avoir Catherine, qui habite l'Eure. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour.
Merci à vous.
Oui.
Vous êtes pour ?
Pour un truc tout simple, en fin de compte, c'est même pas le fait de la manière dont on va procéder pour faire une écriture dite inclusive. Il y a le fait, il y a un truc qu'on a tous entendu à l'école, c'est que le masculin l'emporte sur le féminin. Alors s'il y a un mec et 12 nanas, on va tout écrire au pluriel pour parler d'eux. Au masculin, je veux dire. Parce que c'est une notion qui reste dans les esprits, et que le petit garçon, quand le masculin, il emporte, j'ai toujours raison par rapport à une fille. C'est là qu'il est le problème.
Vous pensez vraiment que si en grammaire le masculin l'emporte sur le féminin, ça aura des conséquences dans la vie sociétale de la nation?
Non, ne parlez pas au futur, ça en a.
Vous pensez ça en a maintenant. Que c'est lié à ça?
Mais alors, sachez, moi je suis en retraite maintenant, j'étais correctrice. Hein. Sachez qu'il y a même pas 200 ans, par exemple, aujourd'hui, vous dites, Marie et Jacques sont contents, le masculin l'emporte, donc on va mettre content avec le S, mais sans... mais si vous mettez, ce que j'ai pris comme prénom, Jacques et Marie sont contents, vous ferez pareil. Il y a 200 ans, ça s'accordait avec le dernier dit, c'est-à-dire que si Marie était en deuxième, c'était au féminin. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, cette histoire du masculin qui l'emporte. Alors ça, c'est une première chose. Ok. Mais, et j'appelle pour ce mais, parce que si sur le principe, il y a moyen de trouver des manières inclusive, écrite, pas trop contraignante, et ça, il faut se pencher dessus, il faut réfléchir dessus, il faut que ça ressemble à quelque chose. D'accord.
Mais est-ce que vous pensez, exemple, aux élèves qui sont
non, mais justement, voilà. Écoutez,
dysphasiques, ça va être illisible pour eux, la langue de l'élite.
Mais non, mais même sans parler de cela, le problème actuel d'aujourd'hui et même d'un petit hier, c'est que pour pouvoir le maîtriser, ce truc-là, et à l'écrit, et à l'écriture et à la lecture, il faut déjà maîtriser la grammaire. Or, sans même parler de dyslexie et orthographique, qui effectivement, ce sont des handicaps en prime, sans parler de cela. Moi, je suis sur un groupe Facebook où on se moque des fautes d'orthographe. On rigole bien, puis ça défoule. On voit des exemples qui sont mis de choses écrites par des enseignants. Et c'est à hurler de terreur. Hein. Il faudrait dans un premier temps que tous les enseignants de la maternelle, à tous les niveaux, reçoivent des cours suivis de grammaire pour remettre les choses à zéro, voire leur apprendre des choses. Et qu'ensuite, là, ils aient au moins les armes pour l'enseigner à leurs élèves. Déjà, et ça date pas d'hier. Hein. Moi, ma dernière fille, elle a 27 ans. J'ai corrigé en rouge des fautes écrites par le directeur de l'école. Hein. Mes filles aînées, qui sont beaucoup plus âgées qu'elles, j'ai jamais eu ce problème-là, parce qu'en plus, elles avaient des instits qui étaient relativement âgés. Bon. Il y a eu une... Donc, tant que cette désuétude grammaticale et ce qui fait... Il y a des quiproquos et des malentendus incroyables à cause d'une mauvaise orthographe, qu'elle soit lue ou écrite. Ce qu'on souhaite bien, faut déjà aujourd'hui, maintenant, que l'orthographe soit vraiment maîtrisée. Après...
Bon, alors, je crois qu'on a compris ce que vous voulez dire, Catherine. Donc, et je vous remercie en tout cas d'être intervenue et on va marquer une nouvelle pause. C'est vrai que ce sujet est peut-être un peu plus léger, peut-être plus propice à écouter une petite chanson parce que je vous avoue que j'en ai un peu assez de la de traverser comme ça l'émission sans un petit éclair.
Une petite bulle.
Un éclair au chocolat.
Vous reconnaissez?
Claude Barzotti.
Bien sûr.
L'écriture inclusive. Ben voilà, je ne t'écrirai plus. Je ne t'écrirai plus. Magnifique, Claude Barzotti.
Vous n'aviez pas reçu un SMS de quelqu'un qui vous demandait de ne pas chanter sur les chansons?
Il me l'avait dit. Oh, réellement. Mais il faut que tu arrêtes de chanter. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus. C'est formidable, tu peux chanter. Tu sais, est-ce que vous chantez dans votre voiture? Très fort comme ça.
Je chante dans ma, sous ma douche, principalement.
Ah, non, sous la douche, non, mais dans la voiture, vous mettez à fond et puis vous chantez.
Je viens dans les les transports en commun. Donc c'est un peu plus gênant de chanter fort dans les transports en commun. Je pourrais essayer, remarquez, je suis pas sûr d'arriver.
Tout ça pour dire que vous prenez les transports en commun. Vous êtes prête à toutes les... À toutes
les fourberies
les fourberies et les démagogies. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal
Pro. Allez, encore un témoignage pour l'écriture inclusive. Et c'est intéressant parce que c'est un auteur qui nous appelle. Bonjour Eric.
Bonjour Pascal.
Vous êtes écrivain?
Enfin, auteur, le terme d'écrivain, je considère que le terme d'écrivain est attribué à ceux qui vivent de leur plume, c'est pas mon cas.
D'accord. Et alors, vous êtes auteur, vous écrivez des romans, de la fiction, des essais?
Oui, j'écris de la fiction historique, entre autres. J'écris aussi pour un public plus jeune. Voilà, j'ai l'occasion d'écrire dans différents domaines, mais cette histoire d'écriture inclusive me fait peur pour plusieurs titres, si je puis dire. Notamment, qu'est-ce qu'on peut craindre dans quelques années des éditeurs ou des professionnels du livre qui attendront peut-être que leurs auteurs s'adaptent à ce que seront les exigences des lecteurs, parce que ces lecteurs seront beaucoup plus imprégnés de certains principes. On considérera qu'il ne faut pas toucher telle ou telle corporation, telle ou telle personne. Enfin, c'est un peu effrayant s'il faut faire entrer tous ces paramètres-là dans ce qu'est l'art. L'art n'a pas le droit à la limite. L'expression de l'art, c'est presque tout, hein. On s'accorde quand même quelques limites, mais l'expression de l'art, c'est tout, mais il y a quand même des codes à respecter quand on s'exprime, aussi bien en peinture qu'en écriture. Et si on en arrive à perturber tout ça, alors je me permets d'insister en disant qu'en plus, on a déjà beaucoup de mal à communiquer, parce que on s'aperçoit que le vocabulaire régresse beaucoup. Si on en arrive à ce genre de difficultés, je pense que la communication va devenir quasi impossible. Et ça va devenir assez effrayant, parce que ne plus communiquer, c'est la fin de tout. Enfin,
moi, je suis moins inquiet que vous pour des livres ou pour la presse, parce que comme le public n'adhérera pas, et qu'on est dans un rapport quand même commercial ou commerçant, les éditeurs ne prendront pas le risque d'un livre en écriture inclusive, de la même manière que la presse n'est pas écrite en écriture inclusive, parce que les gens... ils n'achèteraient peut-être plus le journal. Donc, les patrons sont pas fous. Mais en revanche, dans les universités, dans les administrations, là où précisément les minorités actives, parfois, sont les plus influentes, et où il n'y a pas ce rapport commerçant ou commercial, elles peuvent imposer ce type d'écriture. Et c'est à l'État, c'est pour ça que d'ailleurs, il y a cette soixantaine de députés qui, issus de la majorité, qui a déposé une loi, on va voir si l'État impose sa loi, justement, précisément. Il y avait déjà un règlement de l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui avait fait une circulaire, elle n'est pas appliquée. Il y a la position de l'Académie française, elle n'est pas retenue, etc. Et dans les universités, dans les administrations, la mairie de Paris, par exemple, fait tous ses communiqués en écriture inclusive.
Ça, c'est effrayant. Enfin, il y avait
c'est effrayant.
C'est effrayant, mais quand vous parlez des universitaires, malheureusement, parmi les universitaires, vous avez aussi des gens qui sont entre guillemets, des artistes qui ne se cantonnent pas à écrire des études approfondies. C'est aussi des gens qui s'expriment autrement. Pour eux, bah pour moi, c'est une limite de l'esprit. Tout à l'heure, j'ai dit à votre, je me suis permis de dire à votre standardiste, vous avez pris un exemple, Pascal, qui disait les lecteurs tristes, voilà, en étant le point avant, après le lecteur. Mais qu'est-ce qui me dit qu'un jour, des minorités, puisqu'on parle bien de minorités, n'exigeront pas qu'on écrive d'abord les lectrices? Et puis, pointeur après, puisque...
Mais à la limite, façon... moi, je vais vous dire, je préférerais que le féminin l'emporte toujours sur le masculin. Alors là, je préférerais. Moi, ce que je conteste, c'est la lisibilité et la clarté. Si demain, on me dit, on change toutes les règles, le féminin l'emportera toujours. Je dis pourquoi pas, hein, au lieu de dire les auditeurs, je dirais les auditrices. Moi, ça ne me gêne pas, ça. Ouais, ce qui me gêne pas... vraiment, ce qui me... Et puis, je trouve très bien que le féminin l'emporte sur le masculin, pour tout vous dire. Ça ne m'ennuiera pas du tout. Mais la lisibilité et la clarté de l'écriture, c'est moche et incompréhensible. Donc,
et
qu'est-ce
puis,
que vous voulez
faire? Malgré tout, nos jeunes lecteurs qui apprennent à 6, 7, 8 ans, je crois savoir quand même qu'on leur fait lire des auteurs qui ont pignon sur rue depuis 100, 150 ou 200 ans. On en a une palanquée quand même. Dieu sait si on a quand même ce qu'il faut. On les lira comment? Un jeune à qui on apprendra l'écriture inclusive lira Proust. On réinterprétera Proust en inclusif. Enfin, Proust va se retourner 10 000 fois dans sa tombe. Et ce sera peut-être pas le plus grave d'ailleurs. Tout sera totalement.
Si vous mettez Proust en écriture inclusive, alors là, déjà que c'est pas toujours simple à lire.
Non, vous voyez un petit peu la difficulté. Mais moi, c'est plutôt la pression. Ce genre de minorité qu'on écoute beaucoup trop. Comment on peut se plier à ce genre d'exigence? Enfin, moi, ça m'étonne. Follement, qu'on puisse créer, la langue a toujours évolué, on le sait très bien, mais à des points aussi extrêmes et aussi maladroits et aussi dangereux, ça m'effraie beaucoup. Enfin bon, je suis d'un utérus optimiste, donc je reste...
Bah merci Eric. Vous écrivez quoi en ce moment?
Justement, je suis dans Proust.
Ah.
Mais un Proust revu et corrigé.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que moi, je ne réécris pas Proust, mais j'interprète Proust à ma manière. Je lui donne un aspect beaucoup plus humoristique, parce que ça semble toujours assez inabordable, Proust, alors qu'il a des côtés très drôles.
Mais c'est très drôle, Proust. Proust. C'est pas facile à lire, mais vous êtes récompensé parce que c'est d'une intelligence diabolique.
Ah oui, oui.
C'est-à-dire qu'il met une caméra dans un cerveau et il découpe un confetti en 10 000.
Donc, effectivement.
Donc voilà. Et après, vous comprenez mieux les hommes. Et les femmes.
Exactement. On pourra en parler de cet homme-là, mais il a fait beaucoup de bien, en littérature, mais en tas de domaines.
Ouais. Marcel Proust.
La disparition de Georges Perec ne pourrait pas être adaptée en écriture inclusive, du coup.
Non, parce qu'il n'y a pas de...
Il n'y a pas de... La disparition, voilà. Georges Perec, c'est tout son livre était sans eux, ce qui est tout à fait étonnant. Et il a écrit une page en palindrome. Vous vous rendez compte ce qui est une page complète en palindrome. C'est-à-dire que vous pouvez la lire des deux côté.
Georges Perec, c'est un phénomène. Hein, sur le plan littéraire, il a... Ouais.
14h19, je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. A tout de suite. Je ne
t'écrirai plus. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est quoi cette musique?
C'est Bruno Mars.
Ah, Bruno Mars. Parce qu'on part pour Mars avec Bernard. Bonjour Bernard.
Bonjour Pascal.
C'est à 20h que la petite sonde va se poser, le petit robot qui pèse une tonne et qui est parti le 30 juillet.
On espère qu'elle ne va pas s'écraser.
Elle va passer de 20 000 km à zéro en quelques minutes.
Ouais, mais c'est pas la première qui va rouler sur Mars, donc je pense que l'on a l'habitude maintenant. Voilà. Et puis, moi je trouve ça formidable. Hein, ce que je regrette, c'est que les pays ne travaillent pas tous ensemble là-dessus. Quoi. On irait beaucoup plus vite, quoi. En fait. Bon. Et parce que c'est quand même un peu cette année, si je ne m'abuse, il y en a trois qui sont partis. Il y a celui de la NASA, il y a un chinois, Et en Arabie Saoudite, je crois, qui sont partis des rovers sur Mars.
Allô, c'est possible. Oui, Bernard. Mais est-ce que ça vous fait rêver? Parce que c'est ça la question. Est-ce que ça fait rêver?
Oui, ça me fait rêver. Bon, après, moi, je pense pas que si on devait habiter d'une façon simple sur Mars, on pourrait faire du terraformage, ça durerait bien trop longtemps. Mais on pourra, bien sûr. Moi, à mon avis, c'est des prémices à une conquête d'abord de notre système solaire, un petit peu d'aller sur les autres planètes pour éventuellement ramener des métaux qu'on trouve pas ici. Mmh. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi d'ailleurs on n'a pas encore une base sur la Lune. Vous voyez,
une base sur la Lune.
Bah oui, parce que on s'embête à faire tourner des Skylab autour de la Terre avec une complète, alors qu'on a un satellite qui est pas si loin que ça et dans lequel on pourrait et comme la Lune, ça coûterait beaucoup moins d'énergie pour envoyer des. Je comprends pas. Bah, il doit avoir sûrement des raisons, mais moi j'ai pas compris pourquoi on n'a pas déjà une base là-dessus. Oui. Alors ben moi d'ailleurs, si vous voulez, j'ai une petite anecdote dans le sens où j'étais directeur scientifique dans une grosse boîte et en fait ils avaient embauché dans mon équipe un docteur en physique qui avait travaillé avec la NASA sur le premier rover, quoi. Et donc par exemple, il avait une montre de Mars, si vous voulez. Puisque Mars tourne, bon, il y a sûrement des spécialistes, mais Mars tourne en 24 heures et 40 minutes, quelque chose comme ça. Et donc, forcément, comme il fallait tout le temps démarrer le rover à un certain moment, par exemple à 11 heures du matin, heure martienne, bah forcément, sur la Terre, on était décalé de 40 minutes. Mmh. Donc, vous vous rendez compte, au bout d'un certain temps, ça fait qu'on démarre à minuit, 1 heure du matin, etc. Et donc, lui, il avait la montre qui...
Et il regardait, et il attendait. Merci beaucoup, Mars. Mars, merci beaucoup Bernard. Mars, et ça repart. Vous suivez cette pub?
Mars, et ça repart.
Ben oui, Mars, et ça repart. Oui. Quel plaisir cette émission. On peut passer de Marcel Proust à Claude Barzotti. Vous vous rendez compte? C'est le débrief de Laurent Tessier, il est 14h24.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Ce midi, Pascal, vous nous avez prévenu.
Disons-le, Laurent Tessier, les sujets du jour ne poussent pas à la franche rigolade.
La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, était au cœur des conversations aujourd'hui.
Est-ce que l'islamo-gauchisme gangrène les universités ou pas? C'est la seule question qui doit nous intéresser.
La ministre a demandé une enquête au CNRS. Y a-t-il vraiment de l'islamo-gauchiste à l'université? L'avis de Mathéo, étudiant.
L'islamo-gauchisme est à mon sens partout. Est-ce qu'on dira qu'elle gangrène? Je ne sais pas. En tout cas, elle se propage absolument partout. Et par effet de conséquence, elle va à l'université.
Un autre étudiant, Léo, nous a appelé. Autre ambiance.
C'est un concept d'extrême droite qui vise à dissuader la gauche, syndicale et politique, de se battre aux côtés des personnes musulmanes qui sont opprimées.
Et si on fait participer en même temps nos deux étudiants?
On vient encore de voir où vient la tolérance. Ceux qui donnent des leçons quand même sur la tolérance, sur l'ouverture d'esprit, attaquent l'autre. Moi, je ne vous attaque pas, Léo. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais par contre, je vous défends bien de me traiter de fasciste ou d'extrême droite. J'expose un point de vue.
Fasciste, monsieur.
Oui,
monsieur,
excusez-moi, mais
c'est pas fasciste. Je sens bien
dans votre façon de parler.
Vous utilisez un concept d'extrême droite, oui, sans souci.
Autre sujet ce midi, qui vous a fait réagir au 3210?
Alors, sur le procès de Pascal Pau.
This is CNN breaking news. C'est quoi cette histoire?
Le procès de Pascal Proulx?
Le procès de Georges
Proulx. Vous êtes gentil. Vous voulez travailler pour le débrief de monsieur. Vous êtes un coup monté.
Oui.
Vous travaillez pour le débrief de Laurent Tessier. Ça y est, j'ai mon procès maintenant.
Oui, merci Lynn de servir aussi bien le débrief. Un peu de culture aussi dans cette émission. Faut-il interdire l'écriture inclusive dans tous les documents administratifs? C'est la demande d'une soixantaine de députés. Mais c'est quoi l'écriture inclusive?
Alors, en écriture inclusive, ça donne les auditeurs, je mets un point. Ensuite, je mets trice, T-R-I-C-E-S, puisque c'est au pluriel, je remets un point. Son, adverbe, pas de problème. Divisé, j'écris divisé. Et, je mets un point. Je mets un E. Et après, je mets un point. Et après, je mets un S. Vous m'avez suivi?
Ah non. Bon, mal de crâne en perspective, une réaction, Gilles?
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Il faut vraiment avoir l'esprit tordu. Puis il y a un côté dictatorial, les ayatollahs de la pensée. Moi, je sais mieux que tout le monde et je veux imposer mes vues.
Et puis, le robot Persévérance arrive ce soir, mesdames et messieurs, 21h55, heure française, sur la planète Mars.
Vers l'infini et au-delà!
Son objectif, trouver des traces de vie ancienne sur la planète rouge. Alors forcément, cette question... Pascal aimerait-il aller sur Mars?
Vous iriez sur Mars, Pascal ?
J'irai sur Mars ? Vous voulez que j'aille sur Mars ?
Non, mais je vous pose la question, vous iriez, vous ?
Ah non.
Non, parce que vous en venez ?
C'est drôle, vous l'aviez préparé.
Un petit peu, oui. Y a-t-il eu une vie sur la planète rouge ? Les Martiens ont-ils existé ? Mais oui, que persévérance ne s'embête pas, les Martiens sont déjà là, rappelez-vous.
Ils sont là ! Ils sont dans les campagnes, dans les villes !
Je parlais de votre
partie. Ils sont sur les réseaux sociaux !
Dans tout le monde, les envahisseurs. Et Pascal ne devait plus chanter pendant l'émission. Bah, qu'en est-il d'ailleurs ?
Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin.
Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson que doit écouter Persévérance avant d'arriver sur Mars.
Gold. Inégalé.
Jamais.
Il y a une pub où c'est Flavie.
Vous chantez pas d'abord ?
Non.
C'est sûr que vous avez
je ne chante plus, je ne me réécoute, c'est horrible.
Alors pub, on peut faire une pub.
A tout de suite.
Vous
ils
êtes
sont
sûr
là.
Lancez-vous.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.